La troisième leçon.
C'était si dur que ça, la foire ? Lui demanda la vieille dame. J'avais pas choisi d'y travailler, lui répondit Aidé en soupirant. Ma mère ne pouvait vraiment pas rester seule, alors les choses se sont enchaînées. Puis les années ont passé, et je suis jamais parti. J'ai vécu là toute ma vie. J'ai jamais vraiment gagné d'argent. Vous savez ce que c'est, on s'habitue à quelque chose. Les gens comptent sur vous, et puis un jour, on se réveille, on ne sait plus trop si on est mardi ou jeudi, on fait toujours ce même truc ennuyeux, on est devenu le monsieur des manèges, comme votre père. Aidé ne répondit pas. « Il vous en a fait voir, » dit la vieille dame. Aidé baissa les yeux.
« Ouais.
Et alors ? Peut-être que vous lui en avez fait voir, vous aussi ? Ça m'étonnerait. Vous savez quand il m'a parlé pour la dernière fois ? La fois où il a essayé de vous frapper ?» Aidé lui lança un regard vif. « Et c'était quoi, ses dernières paroles ? Trouve-toi un boulot. Un bon père, hein ?» La vieille dame esquissa une moue. « Après ça, vous vous êtes tout de même mis au travail, et vous avez retrouvé votre énergie. Vous vous êtes rassaisi. » Aidé sentit monter un grondement de colère. « Écoutez, coupa-t-il sèchement, vous ne le connaissiez pas. » « C'est vrai. » Elle se leva. « Mais je sais quelque chose que vous ignorez, et il est temps que vous ne l'ignoriez plus. » De la pointe de son ombrelle, Ruby lui montra le cercle qu'elle avait tracé dans la neige. Quand Aidé regarda à l'intérieur, il crut que ses yeux allaient sortir de leurs orbites en descendant tout seul dans un trou vers une autre époque. Les images se précisèrent. Il se retrouva des années en arrière dans l'ancien appartement dont il était maintenant en mesure de voir à la fois la façade et l'arrière, le dessus et le dessous. Et voici ce qu'il vit. Il vit sa mère, soucieuse, assise à la table de la cuisine en face d'un mekishi à l'air absolument lamentable. Il était trempé et n'arrêtait pas de se frotter la tête puis le nez. Il se mit à sangloter. La mère d'Eddy lui apporta un verre d'eau. Elle lui fit signe de rester là et se dirigea vers la chambre dont elle ferma la porte. Elle enleva ses chaussures et sa blouse, qu'elle troqua contre un chemisier et une jupe. Eddy voyait toutes les pièces, mais ne pouvait entendre leur conversation qui se résumait à un brouillage. Il vit Mickey dans la cuisine, dédaigner le verre d'eau et tirer plutôt de sa veste un flasque dont il but une grande rasade. Après quoi, il se leva lentement et tituba jusqu'à la chambre dont il ouvrit la porte. Aidé vit sa mère à demi vêtue se retourner, surprise. Mickey chancelait. Elle enfila une robe de chambre à la hâte. Mickey s'approcha. La main de sa mère jaillit instinctivement pour l'écarter. Mickey s'immobilisa un bref instant, puis il empoigna cette main et ensuite la mère d'Aidé, qu'il plaqua alors contre le mur en la prenant par la taille. Elle se tordit de douleur, essaya de se dégager, puis hurla et repoussa Mickey tout en tenant sa robe de chambre fermée. Il était plus grand et plus fort qu'elle et enfonça son visage, dont la barbe frotta ses joues, barbouillant son cou de larmes. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit et que le père d'Aidé, trempé par la pluie, se figea sur le seuil, un marteau à la ceinture. Il se précipita dans la chambre et, voyant Mickey qui avait agrippé sa femme, hurla en levant son marteau. Mickey mit ses mains sur la tête et fonça vers la porte, poussant le père d'Aidé sur le côté. La mère d'Aidé pleurait, sa poitrine haletait, son visage était inondé de larmes. Son mari la prit par les épaules et la secoua violemment. Sa robe de chambre glissa. Ils hurlaient tous les deux. Puis le père d'Aidé quitta l'appartement, brisant au passage une lampe d'un coup de marteau. Il descendit lourdement les marches et s'enfuit dans la nuit pluvieuse. « Mais c'était quoi ? » hurla Aidé, incrédule. « Mais c'était quoi ?» La vieille dame ne répondit pas. Elle s'écarta du cercle dessiné dans la neige et en dessina un autre. Aidé essayait de ne pas baisser les yeux, mais il ne put s'en empêcher. Et voilà qu'il tomba à genoux, comme s'il n'était plus qu'un regard focalisé sur une scène. Et voici ce qu'il vit. Il vit une tempête à l'extrémité de Ruby Pier, le point nord, l'appelait-on, un môle étroit qui s'enfonçait très loin dans l'océan. Le ciel était d'un noir bleuâtre. La pluie tombait en nappe et Mekishi avançait en vacillant vers l'extrémité du môle en question. Il s'écroula pantelant et resta étendu là un moment, le visage tourné vers le ciel noir. Après quoi, il roula sur le côté, sous le parapet de bois, et tomba à la mer. Le père d'Eddy apparut quelques instants plus tard, avançant, puis reculant, le marteau toujours à la main. Il empoigna la barrière et fouilla les eaux du regard. Le vent poussait la pluie à l'oblique. Ses vêtements étaient trempés, et le cuir de sa ceinture d'outils était presque noir d'humidité. Il vit quelque chose au beau milieu des vagues, se figea, enleva sa ceinture, balança une chaussure, essaya de défaire l'autre, abandonna, s'accroupit pour passer sous le parapet et sauta pour finir par barboter maladroitement dans l'océan démonté. Mickey rebondissait constamment, emporté par des rouleaux à demi inconscient, une écume liquide et jaune à la bouche. Le père d'Eddy nagea jusqu'à lui en hurlant en dépit du vent. Il saisit Mickey, qui lui balança un coup de poing. Le père d'Eddy le lui rendit. Les grondements de tonnerre déchiraient le ciel, tandis que la pluie s'abattait sur eux. Ils s'empoignèrent et se débattirent au beau milieu des remous. Mickey toussa fort quand le père d'Eddy lui saisit le bras et lui coinça par-dessus l'épaule. Il sombra, remonta, puis s'arc-bouta de tout son poids contre le corps de Mickey, qu'il tenta de ramener ainsi vers le rivage. Il donna un coup de pied et ils avancèrent. Une vague les balaya ensuite vers l'arrière, puis vers l'avant. L'océan palpitait, s'écrasait. Même le père d'Eddy demeurait coincé sous les aisselles de Mickey, pédalant et clignant des yeux comme un fou pour mieux y voir. Surfant sur la crête d'une vague, ils réussirent soudainement à s'approcher du rivage. Mickey grognait et haletait. Le père d'Eddy recracha de l'eau de mer. Ça semblait ne jamais devoir cesser. Cette pluie sautillante, cette écume blanche heurtant leur visage, ces deux hommes qui criaient en agitant les bras. Finalement, un puissant rouleau les souleva et les déposa violemment sur le sable. Le père d'Eddy se libéra du poids de Mickey et put alors glisser ses mains sous les aisselles de ce dernier afin d'empêcher qu'une grosse vague ne l'emporte. Une fois qu'elle se fut retirée, il eut un dernier sursaut d'énergie pour pousser Mickey vers l'avant d'un coup sec. Puis, il s'effondra sur le rivage, tandis que sa bouche ouverte se remplissait de sable humide. Le regard d'Eddy revint dans son corps. Il se sentait épuisé, vidé, comme s'il s'était lui-même trouvé au beau milieu de cet océan déchaîné. Sa tête était lourde. De tout ce qu'il pensait savoir de son père, il ne savait plus rien. « Mais il faisait quoi ?» murmura Eddy. « Il sauvait un ami. » Drôle d'ami, sachant ce que ce poivreau avait fait, moi je l'aurais laissé se noyer. Ton père s'était dit la même chose. Il avait poursuivi Mickey pour le frapper, peut-être même pour le tuer. Mais en fin de compte, il a changé d'avis. Il connaissait Mickey et ses défauts. Il savait qu'il buvait et qu'il n'avait pas toujours tout son bon sens. Bien des années auparavant, pourtant, quand ton père cherchait du travail, c'est Mickey qui était allé voir le propriétaire de la foire et l'avait recommandé. Et quand tu es né, c'est Mickey qui a prêté à tes parents le peu d'argent qu'il avait pour aider à nourrir cette bouche supplémentaire. Ton père accordait beaucoup d'importance aux vieilles amitiés. « Attendez un peu, » interrompit Eddy. « Vous avez tout de même vu ce que ce salaud a fait à ma mère ?»« Oui, » acquiesça la vieille dame tristement. Et c'était tout à fait répréhensible. Mais il faut savoir aller au-delà des premières impressions. Mickey avait été mis à la porte cet après-midi-là. Il s'était endormi et était trop saoul pour se réveiller. Du coup, il n'avait pas pris son poste à l'heure et ses employeurs lui avaient signifié son congé. Il a encaissé la nouvelle comme il les encaissait toutes, en buvant encore plus. Et il était joliment imbibé de whisky quand il est arrivé chez ta mère en implorant de l'aide. Il voulait retrouver son emploi. Ton père travaillait tard. Alors ta mère lui a promis de l'emmener auprès de ce dernier. Mickey était peut-être rustre, mais il n'était pas mauvais. À ce moment-là, il était perdu, à la dérive. Et ce qu'il a fait à ta mère signifiait surtout sa solitude et son désespoir. Il a agi sur une impulsion, une regrettable impulsion, c'est évident. Mais ton père a agi sur une impulsion aussi. Et alors que son premier geste était de tuer, pour finir, il a décidé de sauver la vie d'un homme. Elle croisa les mains sur le pommeau de son ombrelle. Voilà comment ton père a pris mal naturellement. Il est resté sur la plage pendant des heures, trempé et épuisé, avant de trouver la force de se traîner chez lui. Il n'était plus tout jeune. Il avait déjà la cinquantaine. 56 ans, précisa Eddie, impassible. 56 ans, oui. Son organisme était affaibli. L'océan l'a rendu vulnérable. La pneumonie l'a assailli. Et au bout du compte, il en est mort.
À cause de Mickey? Demanda Eddie.
À cause de sa loyauté.
On ne meurt pas par loyauté.
Vraiment? Fit-elle en souriant. Par amour de Dieu, alors? Ou patriotisme? Ne sommes-nous pas loyaux envers ces choses-là, parfois, jusqu'à la mort?
Eddie haussa les épaules.
Mieux vaut encore être loyaux les uns envers les autres, ajouta-t-elle.
Après quoi, ils demeurèrent tous deux longtemps dans cette vallée enneigée de montagnes. Cela finit par sembler drôlement long à Eddie, en tout cas. Eddie, qui n'était plus très sûr de la durée des choses.
« Qu'est-ce qui est arrivé à Mekichi ? » demanda-t-il.
« Il est mort tout seul dans son coin quelques années plus tard. La boisson l'amenait à sa tombe. Il ne s'est jamais pardonné ce qui était arrivé.
« Mais mon pater, » dit Eddie en se frottant le front, « il n'en a jamais rien dit ?»
Il n'a plus jamais reparlé de cette nuit, ni à ta mère, ni à personne. Il avait honte pour elle, pour Mickey, pour lui-même. Une fois à l'hôpital, il a définitivement cessé de parler. Le silence fut sa seule échappatoire, mais cela constitue rarement un refuge. De toute façon, ses pensées continuent de le hanter. Une nuit, sa respiration s'est ralentie, ses yeux se sont fermés, et il a été impossible de le réveiller. Selon les médecins, il avait sombré dans le coma.
Eddie se souvenait bien de cette nuit-là. Un autre coup de fil à M. Nathanson et un autre coup frappé à sa porte. À partir de là, votre mère est restée à son chevet, nuit et jour, et elle murmurait tout doucement, comme dans une prière, « J'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû faire quelque chose. » Une nuit, sur l'insistance du médecin, elle a fini par retourner dormir à la maison. Le lendemain, au petit matin, une infirmière découvrait votre père, la moitié du corps affaissé sur le rebord de la fenêtre.
« Attendez, » dit Eddie, qui plissa les yeux.
« De la fenêtre. »
Ruby hocha la tête. Au beau milieu de la nuit, votre père s'est réveillé. Il s'est levé, il a traversé la pièce en vacillant et il a trouvé la force de soulever la fenêtre à guillotine. Il a appelé votre mère par son prénom avec le peu de voix qui lui restait. Vous aussi, il vous a appelé, ainsi que votre frère, Joe. Et il a appelé Mickey. À ce moment-là, semble-t-il, son cœur s'était vidé de toute la culpabilité et de tout le remords qui y couvait. Peut-être sentait-il sa fin proche. Peut-être savait-il simplement que vous étiez tous là-bas, quelque part, dans ces rues, sous sa fenêtre. Il s'est penché par-dessus le rebord. La nuit était fraîche. Le vent et l'humidité ont eu raison de lui, vu son état. Au petit matin, il était mort. Les infirmières qui l'ont découvert l'ont tiré jusqu'à son lit. Comme elles craignaient que ça ne leur coûte leur emploi, elles n'en ont soufflé mot à personne. On l'a donc déclaré mort dans son sommeil.
Eddie retomba assommé. Il revoyait cette dernière image. Son père, ce vieux cheval de trait, essayant de ramper pour sortir par la fenêtre. Où allait-il? Que pensait-il? Face à autant de questions sans réponse, qu'est-ce qui était pire? Une vie ou une mort?
Comment vous savez tout ça? Demanda alors Eddie à Ruby.
Elle soupira. Ton père n'avait pas les moyens de s'offrir une chambre individuelle, pas plus que l'homme de l'autre côté du rideau de la chambre qu'il partageait.
Elle s'arrêta.
Émile, mon mari.
Eddie leva les yeux. Sa tête partit en arrière, comme s'il venait juste de résoudre une devinette.
« Alors, vous avez vu mon père ?»«
Oui. »«
Et ma mère ?»«
Je l'ai entendue gémir toutes ces nuits où elle était seule à son chevet. »«
Nous ne nous sommes jamais parlé, mais après la mort de ton père, je me suis renseigné sur ta famille. Et quand j'ai appris où ton père avait travaillé, j'ai ressenti une peine cruelle. » Comme si j'avais moi aussi perdu quelqu'un cher. La foire qui portait mon nom. Je continuais de sentir son ombre maudite et je me suis de nouveau prise à souhaiter qu'elle n'ait jamais été construite.
Ce souhait m'a poursuivi jusqu'au ciel, d'ailleurs, pendant que je vous attendais. » Eddie eut l'air perplexe. « Le restaurant ?» Elle montra la tache lumineuse dans les montagnes. « Il est là, parce que je voulais revenir à mes jeunes années, à une vie simple mais rassurante. Et je voulais que tous ceux qui avaient souffert sur Ruby Pier, qu'il s'agisse d'accidents, d'incendies, de bagarres, de glissades ou bien de chutes, je voulais que tous ces gens soient sains et saufs à présent. Je voulais qu'ils soient tous comme j'aurais aimé voir mon Émile, bien au chaud et bien nourri, dans le giron d'un lieu accueillant et à des lieues de la mer. » Ruby se leva et Eddie l'imita. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la mort de son père. « Je le détestais, » marmonna-t-il. La vieille dame hocha la tête. « Il était toujours après moi quand j'étais gamin, et ça s'est pas vraiment arrangé avec les années. » Ruby fit un pas dans sa direction. « Edward, » lui dit-elle doucement. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. « Laissez-moi vous dire ceci. Ruminer sa colère est un poison qui vous dévore de l'intérieur. » On pense que la haine est une arme dirigée contre la personne qui nous a fait du mal, mais elle est à double tranchant. Et le mal que nous croyons faire, c'est surtout à nous-mêmes que nous le faisons. Pardonnez, Edward, pardonnez. Vous rappelez-vous la légèreté éprouvée quand vous êtes arrivé au ciel? Eddie s'en souvenait, oui. Où est ma douleur? C'est parce que personne ne vient au monde la colère au ventre. D'ailleurs, quand nous mourons, l'âme en est libérée. Mais ici et maintenant, afin d'avancer, vous devez comprendre les raisons de votre ressenti et aussi pourquoi cette colère est devenue inutile. Elle lui toucha la main. Il faut pardonner à votre père. Eddie pensait aux années qui avaient suivi les funérailles de ce dernier. Comment il avait échoué sur tous les plans et n'était allé nulle part. Durant toute cette période, Eddie avait imaginé une certaine vie, une vie de possible, et qui aurait été possible, justement, s'il n'y avait eu la mort de son père et l'effondrement consécutif de sa mère. Au fil des années, il avait idéalisé cette vie imaginaire et tenu son père responsable de toutes ses insatisfactions, qu'il s'agisse de sa liberté perdue ou de son espoir, de ses ambitions professionnelles avortées. Il n'avait jamais visé plus haut que le métier sale et lassant que son père lui avait légué. « Quand il est mort, » dit Eddie, « c'était comme s'il avait emporté avec lui une partie de moi-même. Après ça, j'étais bel et bien coincé. » Ruby secoua la tête. « Ce n'est pas sa disparition qui explique pourquoi vous n'avez jamais quitté Ruby Pierre. » Eddie leva les yeux. « Et c'est quoi alors ?» Elle tapota sa jupe, ajusta ses lunettes et entreprit de s'éloigner. « Il vous reste encore deux personnes à rencontrer, » répondit-elle. Eddie essaya de lancer « Attendez !» Mais un vent froid arracha pratiquement la voix de sa gorge, après quoi ce fut le noir complet. Ruby partit, il se retrouvait de nouveau au sommet de la montagne, debout dans la neige devant le restaurant. Il resta là longtemps dans le silence, jusqu'à ce qu'il lui faille bien admettre que la vieille dame ne reviendrait pas. Alors il se tourna vers la porte qu'il ouvrit doucement. Il entendit cliqueter des couverts et s'empiler des assiettes. Il huma des mets fraîchement préparés, des pains, des viandes, des sauces. Les esprits de ceux qui avaient péri à Ruby Pier étaient tous là, occupés à manger, à boire et à bavarder entre eux. Eddie avança d'un pas hésitant étant donné ce qu'il était venu faire. Il se dirigea vers la droite, vers la banquette dans l'angle, vers le fantôme de son père fumant un cigare. Un frisson le parcourut. Il pensa au vieil homme penché à la fenêtre de cet hôpital et mort tout seul en pleine nuit. « Papa, » murmura Eddie. Son père ne pouvait l'entendre. Eddie se rapprocha. « Papa, je sais ce qui s'est passé maintenant. » Il sentit sa poitrine se serrer. Il tomba à genoux tout près de la banquette. Son père était si proche qu'Eddie voyait ses favoris et le bout déchiqueté de son cigare. Il vit aussi les poches sous ses yeux lasses, le nez aquilin, les jointures osseuses et les épaules carrées du travailleur qu'il avait été. Il regarda ses propres bras et s'aperçut que dans son enveloppe terrestre, il était à présent plus vieux que son père ne l'avait été. Il lui avait survécu dans tous les domaines. « J'étais en colère contre toi, papa. Je te haïssais. » Eddie sentit les larmes lui monter aux yeux et sa poitrine se secouer comme si les mots coulaient hors de lui.
« Tu m'as battu, tu m'as rejeté. Je ne comprenais pas. Je ne comprends toujours pas, d'ailleurs. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ?»
Il respirait profondément et péniblement.
« Je ne savais pas, ok? Je ne connaissais pas ta vie, ni ce qui s'était passé. Je ne te connaissais pas, mais tu es mon père.
Plus de griefs maintenant, d'accord?
D'accord. Plus de griefs. »
Sa voix chevrota, puis elle se fit forte et implorante. Ce n'était plus du tout la sienne.
« Ok, tu m'entends ? » cria-t-il.
Puis, plus doucement,
« Tu m'entends, papa ?»
Il s'appuya plus près et vit les mains sales de son père. Les derniers mots familiers, il les murmura. « Tout est oublié. » Eddie martela la table, puis s'effondra à terre. Quand il leva les yeux, il aperçut alors Ruby, jeune et belle, qui inclina la tête, ouvrit la porte et s'envola dans un ciel de jade.